VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorcil, que vous remercie de votre fidélité. Dans moins de 5 minutes, notre cours d'anglais. Mais juste avant, un résumé des principales nouvelles du monde. En République centrafricaine, au moins 7 personnes ont été tuées, des habitations et commerces incendiés, des barricades érigées sur plusieurs avenues. Bilan des violences d'hier à aujourd'hui dans une partie de la capitale, Bangui. Tout a commencé avec l'assassinat de 3 jeunes dans le quartier musulman du PK5, apparemment en représailles à l'attaque près de l'aéroport de Bangui, qui aurait fait 3 morts au sein d'une délégation de l'UPC, un groupe armé du centre du pays. Le gouvernement centrafricain appelle au calme. Au Burundi, les affrontements entre forces de l'ordre et insurgés se poursuivent dans le centre du pays, fief du pouvoir. Des heurts ont fait 3 morts parmi les assaillants et 1 parmi les policiers. C'est ce que rapporte l'AFP, citant une source militaire. Une 50aine d'hommes armés auraient attaqué la commune de Nyabianga, provoquant des échanges avec la police. C'est la première attaque des insurgés dans cette région. Au Congo-Brazzaville, les résultats officiels du référendum de dimanche ont été annoncés mardi matin. Le oui l'a emporté à plus de 92% avec un taux de participation de plus de 72%. L'opposition rejette ces résultats.
Le pouvoir ne semble pas avoir compris que les temps au Congo ont changé et que nous ne sommes plus en régime de parti unique. Les forces politiques et sociales opposées au changement de constitution déclarent nul et de nul effet l'objet et les résultats du simulacre référendaire.
Au sein de la majorité, c'est la liesse.
Mais c'est l'expression d'une population. Vous savez, en toute élection, il y a toujours le terme de la participation qui importe. Et tout le monde redoutait une très très faible participation. Vous avez vu qu'il y a eu un sursaut de la population, y compris dans la partie sud du pays où l'on redoutait effectivement un vide.
Par-dessus tout, ce référendum ouvre la voie à une nouvelle candidature de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2016. 12 djihadistes présumés ont été récemment arrêtés dans le centre du Mali et transférés dans la capitale Bamako, a appris l'AFP aujourd'hui de sources militaires maliennes, alors que l'armée vient de lancer une vaste opération dans cette région. Présidentielle en Tanzanie, les résultats commencent à tomber. Un premier décompte des voix donne environ 10% des circonscriptions, dans environ 10% des circonscriptions, indique que le candidat du parti au pouvoir, John Magufuli, devant ses adversaires. Les résultats définitifs sont attendus jeudi.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les secouristes peinent à atteindre les zones isolées touchées par le séisme qui a fait plus de 350 morts au Pakistan et en Afghanistan. Nathalie Barge.
Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, rentré aujourd'hui d'une visite aux États-Unis, a promis des compensations aux survivants du séisme au Pakistan. Nawaz Sharif s'est rendu dans la région de Shangla, probablement la plus touchée au Pakistan, avec au moins 49 morts. Dans le village de Gandao, presque toutes les maisons ont été endommagées. Le Croissant Rouge pakistanais, qui achemine des couvertures et autres équipements de base vers le nord-ouest du pays, peine à atteindre certaines zones enneigées. À Chitral, plus de 80 000 personnes n'ont plus accès à l'eau potable, selon les autorités locales.
Crise migratoire en Europe, l'Union européenne se montre critique vis-à-vis des pays membres qui n'ont pas agi avec célérité dans la fourniture de fonds et d'expertise pour aider à gérer la situation. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne.
The crisis, or rather challenge, that we all of us as a community, as the European Union, are facing now is perhaps.
C'est peut-être le plus grave défi auquel ait jamais été confrontée l'Union européenne depuis des décennies, selon Jean-Claude Juncker, ajoutant que cette crise pourrait changer la face de l'UE. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a annoncé que plus de 700 000 réfugiés sont arrivés en Europe cette année. Au Yémen, des frappes de la coalition menée par l'Arabie Saoudite ont touché un hôpital de Médecins Sans Frontières à Sanaa, la capitale. Selon l'ONG, des patients et employés se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, mais elle n'a fait état d'aucune victime. La coalition arabe a lancé une campagne en mars au Yémen pour déloger les rebelles chiites ayant contraint à l'exil le gouvernement du président Mansour Hadi. Politique américaine, pour la première fois, le neurochirurgien Ben Carson devance chez les Républicains le milliardaire Donald Trump à l'échelle nationale. Dans un sondage New York Times, CBS News, publié aujourd'hui, le seul candidat noir à la Maison-Blanche pour 2016 est crédité de 26% des intentions de vote. Trump obtient 22%. Nouvelle du Monde, Washington, chez Robert Dorcil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être à l'écoute de VOA Afrique, c'est votre antenne libre qui démarre aujourd'hui le Congo Brazzaville. Eric Manirakiza avec vous depuis le studio 10 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. McLean, notre ingénieur, et Georges Léonard Sagnot de l'autre côté de la vitrine pour faciliter cette émission. Le président Denis Sassou Nguesso se prépare à promulguer le projet de nouvelle constitution voté dimanche au référendum, boycotté par l'opposition. Selon les chiffres donnés par le gouvernement de Brazzaville, près de 3 Congolais sur 4 se sont acquittés de leurs devoirs civiques. Le oui l'a emporté à 92,26% des suffrages exprimés. La guerre des chiffres a immédiatement commencé. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique FROCAD a parlé de 10% de taux de participation. Les conditions dans lesquelles ce référendum a été préparé et organisé ne permettent pas d'en apprécier le résultat, notamment en termes de participation, a jugé la présidence de la République française, l'Élysée. L'opposition, président congolais, Denis Sassou Nguesso, a rejeté les chiffres donc mardi. L'opposition a rejeté les chiffres officiels du référendum de dimanche sur un projet de constitution, comme je viens de vous le dire. Et maintenant, il y a des questions qui se posent. Bien sûr, où va le Congo? Y a-t-il encore une chance de préserver la paix? Voilà la grande question qui va retenir notre attention dans cette émission. Nous sommes en ligne depuis Brazzaville avec Romain Kimfoussia, c'est le porte-parole du FROCAD. Monsieur Kimfoussia, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être disponible et de participer dans cette émission. Nous sommes également en train de joindre Madame Florence Dini. Elle est politologue, elle est à Paris. On va essayer de la joindre tout à l'heure. Messieurs Kimfoussia, vous dites que vous ne reconnaissez pas ce référendum, n'est-ce pas?
Oui, ce référendum qui a été organisé par le président Denis Sassou Nguesso est un cinglant camouflé. Sassou avait misé sur un plébiscite. Il a essuyé un cinglant rejet. En s'abstenant massivement d'aller voter, le peuple a refusé le référendum plébiscitaire. Voilà ce qu'on peut dire de ce référendum.
Oui, mais le gouvernement parle de 92% de taux de participation.
Ça nous rappelle les taux records du système soviétique des premières républiques marxistes-léninistes. Le peuple congolais n'a pas bougé de chez lui et M. Sassou n'a pas pu réunir sur son référendum l'ensemble du peuple congolais qui a rejeté ce référendum qui n'est rien d'autre qu'un coup d'État constitutionnel.
Mmh.
Donc les chiffres qui ont été promulgués aujourd'hui sont complètement faux.
Mmh. Où est-ce que vous tirez les 10% que vous avez à publier?
Nous les tirons, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, de la part de nos délégués qui sont répandus sur l'ensemble du territoire national. La même question peut être posée à M. Sassou.
Vous aviez des observateurs dans les bureaux de vote?
N'a pas indiqué déjà le corps électoral. Combien était le corps électoral? On n'en sait rien. Alors, tirer des statistiques à partir d'un corps électoral flou, c'est déjà un problème de principe.
Mmh. Est-ce que vous aviez des observateurs dans les bureaux de vote pour justement pouvoir savoir le taux de participation?
Non, nous avons observé l'entrée dans les bureaux de vote parce que pour nous c'était un référendum qu'il fallait récuser dans son organisation. Nous n'avions pas à dire non ni oui, nous avions à dire simplement pas de référendum et nous avons boycotté ce référendum mais en mettant autour de tous les lieux présumés recueillir des bureaux de vote notre personnel pour compter le nombre de gens qui étaient en train de voter. Ce que l'on peut reconnaître, c'est que M. Sassou a utilisé des patrouilles motorisées pour faire de la transhumance des électeurs qui ont voté à plusieurs reprises, mais ceci s'est passé à Brazzaville, en tout cas Brazzaville est cantonné, l'essentiel, les forces de répression de M. Sassou. Mais partout ailleurs, Pointe-Noire, Dolici, Ifondo, Ouesso, à Ouesso, je vous annonce que le préfet de Ouesso, mécontent des résultats obtenus dans sa vie, a fait un AVC et est décédé aujourd'hui. Donc, tout le territoire national a récusé ce référendum et personne n'a été voté. Si l'on doit évaluer ou juger ce résultat, 10% c'est même trop, de notre point de vue. Et donc, nous disons simplement que ce référendum du 25 janvier n'a été ni juste, ni libre, parce qu'il y a des gens qui sont enfermés jusqu'à aujourd'hui, ni transparent. Il est tout simplement illégal.
Oui, le président Sassou Nguesso vient de franchir la première étape, n'est-ce pas ? Mais pour bloquer la promulgation du projet de nouvelle constitution, votre coalition, le FROCAD, et l'initiative pour la démocratie au Congo, l'IDC, vous avez décidé de faire recours à la désobéissance civile. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui va l'arrêter ?
Sous d'autres cieux, c'est un moyen qui a porté ses fruits et nous escomptons également avoir des fruits avec cette désobéissance civile. Je rappelle simplement que la désobéissance civile n'est pas un acte, c'est un ensemble de mesures et d'actions appropriées au contexte et qui vont se décliner au fur et à mesure que nous allons aller de l'avant, jusqu'à ce que toute la communauté internationale soit édifiée sur le malaise congolais et prenne enfin la décision de nous accompagner pour aller vers un apaisement et un dialogue inclusif. Voilà notre stratégie.
Mais est-ce que vous pourriez préciser éventuellement et d'une manière concrète la forme que pourrait prendre votre contestation ?
Éventuellement, une ville morte, savez ce que ça veut dire ? Une ville morte, on demande à tout le monde de ne pas bouger, pas aller travailler, les enfants ne vont pas à l'école, les enseignants ne vont pas à l'école, c'est une grève larvée, et rien autour, pas les banques, pas les sociétés, rien autour. C'est un cas de figure. Et je peux en citer, c'était une batterie de mesures, j'allais dire paisibles, il n'y a pas de violence dans tout ça. On a proscrit la violence malgré le fait que M. Sassou tire à balles réelles sur nos populations qui sont aux mains nues. Personne ne le relève. Il est responsable de plusieurs assassinats aujourd'hui par sa force politique, force de sécurité interposée. Force de sécurité aujourd'hui grugée de mercenaires africains, rwandais, burundais, tchadiens, centrafricains qui sans impunité, en toute impunité, tire sur le peuple congolais.
Nous avons deux auditeurs en ligne. Restez à l'écoute, messieurs Kim Fousia. Nous recevons messieurs Ouedraogo qui est à Moussoukro. Ouedraogo, bonsoir.
Oui, bonsoir à la Voix de l'Amérique, bonsoir à tous.
Oui, vous avez suivi ce référendum au Congo. Il y a eu des résultats, des réactions. Qu'en dites-vous ?
Oui, on a suivi ce référendum et avec le boycott de l'opposition dans toute sa composante, la victoire du oui et du camp présidentiel ne faisait aucun doute. Sauf qu'avec ce passage en force au Congo, il est à craindre un réveil de vieux démons nostalgiques. Si le président Sassou Nguesso ne se met pas à l'évidence du réel, après la débâcle électorale remportée clairement par l'abstention, face à l'ambition présidentielle, même si le colonisateur par son président François Hollande semble d'ores et déjà approuver le contenu, avant d'émettre des réserves ce jour quant à la crédibilité du scrutin. Et c'est un échec honteux et pour nous, il n'est pas tard pour le camp présidentiel de rectifier le tir. Aujourd'hui, toute la batterie de mesures qui s'organise avec l'opposition, il est à craindre aussi l'essoufflement du peuple congolais. Parce que nous, on a vécu ça ici en Côte d'Ivoire. Quand tout était bloqué, le dialogue politique était bloqué, l'essoufflement a jailli même dans les hôpitaux. Et ça, c'est vraiment dangereux pour un pays comme le Congo qui a connu tant d'années de guerre. Et je pense que le président Sassou Nguesso, nous, en tant qu'observateurs africains, on n'a jamais et on ne soutiendrait jamais une dictature quelconque ou une modification constitutionnelle personnelle quelconque. Mais nous demandons qu'il y ait juste un respect de la transparence du vote. Et là, on constate qu'au Congo, non seulement le président Sassou passe en force, mais on constate que l'abstention a remporté le scrutin au-delà même de l'espérance du camp présidentiel. Donc, il faut se rétracter, il faut réouvrir le dialogue politique. C'est très important d'ouvrir le dialogue politique avec l'opposition. L'avenir du pays en dépend, l'avenir de la région en dépend. Le président Sassou Nguesso est assez mûr pour le comprendre. Lui qui a vécu toutes ces années sombres de son pays, il en est bien conscient. Il ne faut pas fermer toutes les portes, se retrancher avec son clan et espérer un lendemain meilleur dans un climat pareil.
Mmh. Est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il peut reculer?
Oui, je pense qu'il peut reculer parce qu'il espérait gagner le référendum haut la main. Nous, nous avons soutenu que le peuple congolais aille sanctionner le président Sassou s'il ne veut pas de ce référendum à travers les urnes.
Mais il a donné des chiffres, le gouvernement a donné des chiffres de 92%. Il dit que c'est le oui qu'il a emporté à 92% et que près de 3 à 4 Congolais sont allés voter.
Écoutez, moi je pense que le pouvoir à l'état actuel, avec une élection qui n'est pas supervisée de façon crédible, ni la société civile, ni l'opposition qui était mis sur le banc dans ce processus, il est ma foi difficile de certifier que ces résultats viennent de bonne foi. Et je pense que l'opposition aujourd'hui, même en appelant à la désobéissance civile, il y a des risques à tout cela. La communauté internationale dans tout ça qui ferme les yeux pendant qu'on peut pousser le camp présidentiel à prendre ses responsabilités, à ouvrir le dialogue politique. Je pense que c'est le moment de le faire. Il ne faut pas attendre que le pays soit en feu avant de se mobiliser, soit au Conseil de sécurité de l'ONU ou même ici en Afrique, à l'Union africaine. Il faut se mobiliser dès à présent, pousser le président Sassou Nguesso à ouvrir le dialogue politique avec l'opposition pour sortir de ce blocage qui se dessine lentement mais sûrement.
Merci Youssouf pour votre contribution, votre commentaire. Nous recevons un autre auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Ah oui, comment vous portez-vous à Cape Town?
Oui, ça va avec la saison.
Essayez de parler à haute voix pour qu'on puisse mieux vous entendre.
Oui, je disais que ça va à Cape Town, tout va bien.
Oui, vous avez suivi ce référendum au Congo qui a eu lieu ce dimanche. Vous avez suivi les violences qui ont précédé ce référendum liées aux protestations. Votre commentaire?
Oui, on a suivi le référendum qui s'est débouché par des résultats sans impact de la part des pouvoirs, et nous voulons en fait que le législateur puisse renoncer à ça et ouvrir un dialogue avec le président.
Et que pensez-vous de l'issue?
Oui, je pense par ma position par rapport à ce référendum, je voulais dire que le peuple burkinabé
congolais,
le peuple congolais puisse se mobiliser encore, puisse maintenir la pression sur monsieur Sassou pour qu'il puisse dégager, pour lui contraindre à dégager vraiment.
Merci pour votre commentaire et restez à l'écoute de VOA Afrique. Nous revenons vers monsieur Kinfoussia, monsieur Kinfoussia, vous avez dit que c'est la désobéissance civile peut-être qui va faire résonner le président Sassou et son gouvernement. Mais apparemment, il y a des reproches comme quoi l'opposition n'a pas fait la preuve de sa capacité à lever massivement la population contre le pouvoir.
Ça, je suis surpris de l'entendre de votre bouche. Ce n'est pas le cas de tous les observateurs qui sont venus à Brazzaville, de la presse étrangère qui a essayé de couvrir l'événement. Nous avons, je vous assure, sur l'ensemble du territoire national, suffisamment mobilisé nos troupes pour que le boycott soit visible de n'importe quel, innocent. Toute personne de bonne foi a vérifié que M. Sassou n'a pas rempli les urnes comme il le prétend avec des chiffres mirobolants qui rappellent, je l'ai dit tout à l'heure, les régimes socialistes, marxistes, où on était élu à 99,89%. Nous en sommes très, très loin.
Alors, vous envisagez... vous envisagez à faire recours à cette désobéissance civile. Vous avez vu ce qui est arrivé au Burundi. Est-ce que vous ne pensez pas que le même scénario peut se répéter?
Est-ce que le Burundi est un exemple? Ce n'est pas un exemple pour nous. Le Burundi, c'est la même lignée que M. Sassou. Et d'ailleurs, M. Sassou en est l'inspirateur. C'est le pyromane de la sous-région. Et vous le savez. M. Sassou, par ses fonctions de modérateur dans la sous-région, s'est organisé pour être en rapport avec toutes les bandes armées de la sous-région qui aujourd'hui sont présentes à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Congo, d'une manière générale, pour l'aider à imposer par la force son passage en force, son coup d'État constitutionnel. Mais nous l'avertissons, nous le tenons pour responsable de toutes les morts que nous avons déjà enregistrées et de toutes celles qui pourraient survenir demain. Nous demandons à la communauté internationale de ne pas se conforter dans un mutisme coupable et de venir à notre rescousse pour obliger M. Sassou à retirer son référendum et à s'asseoir avec nous autour d'une table dans un dialogue inclusif pour régler un seul problème, la gouvernance électorale qui nous permettra de faire voter, de faire élire le successeur de M. Sassou qui est à son deuxième et dernier mandat. M. Sassou doit partir, sinon nous allons rentrer dans une tourmente que d'aucuns pourront regretter.
Oui, vous lui demandez de partir, mais lui, il persiste et signe, il est là, il vient de faire passer le projet de la nouvelle constitution. Il va foncer.
Vous savez, j'ai connu un cas similaire, J'ai connu un cas similaire au Niger. Tandja nous a fait la même blague. On a vu comment ça s'est terminé. Donc, c'est pas acquis. Hein. Monsieur Sassou vient de faire un coup d'État. Il vient de proclamer des résultats faux. Il va promulguer cette constitution qui est fausse. Je vous rappelle que cette constitution a deux dispositions tout à fait bizarres. Monsieur Sassou, dans ses articles 10 et 96 de cette nouvelle constitution, il n'est pas très connu. S'affranchit de ce que tous les crimes, tous les vols qu'il pourrait commettre pendant son exercice doivent être réputés impunis. Il nous demande au peuple congolais en fait une licence de vol et de meurtre. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour les démocrates de tous bords. Qu'un président de la République, pour des besoins personnels, annonce dans le texte fondamental d'une nation des mesures liberticides qui lui permettent de voler et de piller le Congo autant qu'il souhaite, en étant garanti qu'à la fin de son mandat, si jamais il y avait fin de son mandat, il soit imputé, exonéré de répondre devant la justice. C'est inacceptable. Et je ne comprends pas que des pays où les droits de l'homme, la morale prévalent, se mettent à ne pas critiquer ce régime qui nous pend au nez et qui veut demain faire du Congo une république bananière. Nous ne comprenons pas.
Oui, monsieur Kim Fousia, vous avez dit tantôt que le Burundi, ce n'est pas un exemple. Je le maintiens comme un mauvais exemple. Le Congo peut basculer vers là.
Tout à fait, mais bon, il faudrait savoir à un moment donné qui fait qu'il va en tirer les conséquences. Chacun tirera les conséquences qu'il peut. C'est clair. Vous savez, les pays ne meurent jamais. Ce sont les hommes qui passent. Un pays survivra. Et les responsabilités seront établies tôt ou tard. C'est ça qui est important.
Je reçois notre auditeur qui est en Côte d'Ivoire, c'est M. Zouné. Bonsoir.
Oui, M. Zouné, c'est ça. Merci, bonsoir.
Oui, ça va chez vous? Les résultats commencent à tomber. On connaît le vainqueur. Oui, on connaît le vainqueur déjà.
Oui, oui.
Au premier tour...
Le président sortant déjà, le vainqueur, donc on connaît.
Oui. Voilà, un mot sur le Congo.
Oui. Bon, pour le Congo, moi, je pourrais dire à la classe de l'opposition qu'en réalité, quand on défend des droits et qu'on reconnaît les droits, il faut marcher de manière droite pour parler comme un comédien. Mais j'aimerais attirer l'attention de tous les Congolais pour qu'ils comprennent une seule chose. Si M. Sassou décide à lui de modifier la Constitution pour se donner le pouvoir d'avoir un troisième mandat, je ne vois pas en cela un problème. Ils ont un devoir qui est de faire respecter la Constitution, qui est de faire respecter le droit de l'homme. Or, le droit de l'homme stipule que nous, hommes, devons défendre nos droits dans une légalité et dans une légitimité. Il est important que tous les Congolais acceptent que le verdict tombe, que le oui l'emporte avec 92,48% ou même qu'avec 100%. Mais de faire bloc pour qu'aux élections présidentielles, l'opposition puisse l'emporter. Il y a un bel exemple que nous devons citer qui est l'exemple du Sénégal voisin. Abdoulaye Wade l'a voulu également, briguer un troisième mandat. Et il a tordu le cou à la Constitution. Aujourd'hui, je pourrais dire, c'est Macky Sall qui va en bénéficier si lui désire également de faire un troisième mandat parce que la Constitution avait été déjà adoptée.
Oui, mais il y a Yanamar, le mouvement Yanamar qui a fait le boulot.
Oui, les Yanamaris ont fait un travail de fond. Le mouvement Yanamar a fait un travail de fond. Ils ont mobilisé, ils ont motivé, ils ont instruit, enseigné les habitants, c'est-à-dire les Sénégalais. Je souhaiterais que la classe politique congolaise fasse autant. Qu'ils se mettent en groupe, qu'ils enseignent, qu'ils éduquent, qu'ils donnent des instructions à leurs partisans. S'ils se disent respecter les droits de l'homme et respecter la Constitution. Parce que s'ils se mettent dans une même chaîne de marche, comme l'a fait le Burundi aujourd'hui, nous voyons que le président burundais, il est encore là, avec beaucoup de mains entachées de sang, et ça n'a rien changé. Donc nous devons changer notre mentalité de voix pour que l'Afrique également puisse aller de l'avant. Parce que l'Afrique, c'est un continent d'avenir. Je souhaiterais que mes confrères opposants du Congo acceptent d'instruire et de faire barrage pour qu'aux élections présidentielles, même au premier tour, qu'ils puissent tomber. Sassou, parce qu'ils l'ont dit, il n'est pas éternel, il n'est pas majoritaire. Parce qu'après plusieurs années passées au pouvoir, nous savons ce qui se passe. Donc vraiment, il est important que nous comprenions les choses de cette manière. Et je pense que l'intervenant qui parlait tout à l'heure des tricheries, des vols, des pillages systématiques de M. Sassou Nguessou, lui également, il peut encourager. Nous avons plusieurs stratégies pour empêcher des imposteurs, pour empêcher des voleurs et des pilleurs de continuer de piller la ressource de l'Afrique.
Et comment vous voyez l'avenir du Congo?
L'avenir du Congo est présentement entre les mains des opposants congolais. Parce qu'ils doivent réfléchir, après des années de difficultés, des années de guerre civile, les Congolais doivent comprendre qu'il faut prendre des décisions sages, lesquelles donneront une voix forte et haute au Congo du demain. Parce que j'ai lu un commentaire qui dit « Le Congo appartient à nous et nous devons nous lever pour empêcher que M. Sassou prenne en otage le Congo qui est l'avenir de nos peuples ». Oui, il faut se lever, mais se lever de manière intelligible, se lever de manière responsable, se lever de manière conséquente. Pas seulement avec une bavarie. il faut aller aussi avec des stratégies politiques. La politique, c'est l'art de la conviction, c'est l'art d'emmener le peuple à suivre un mouvement qui est noble. M. Sassou a réussi à imposer, je dirais, sa dignité.